Vous écoutez RTL.
15h03 sur RTL. On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Vous n'êtes pas trop stressé?
Oh, ça va, ça
pas
va.
Pas trop anxieux?
Oh, ça m'arrive.
Eh bien justement, vous allez nous écouter, ça ira mieux à 16h.
Bon, très bien.
Un prochain point sur l'actu. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci. Inquiétude tenace, pessimisme constant, appréhension continuelle, comment calmer son anxiété? Zen, restons zen, c'est tout de suite en direct sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Super émission hier sur l'influence de notre nom de famille. Une émission à écouter en replay sur rtl.fr comme toutes les précédentes d'ailleurs. Vous y découvrirez aussi les aptonymes. Les aptonymes, je vous en dis pas plus, mais ils nous ont valu en tout cas quelques bons moments de rigolade. Soyez les bienvenus donc sur RTL. Nos échanges vont nous porter jusqu'à 16h. Nous sommes en direct à leur place au sujet du jour. Ça se vit, l'anxiété. Ça vous rentre de partout, ça vous pénètre et plus on se démène, plus ça fait mal. Selon l'auteur québécois Jean-François Somsinski. Alors, sommes-nous tous devenus anxieux? Comment expliquer cet état? De quelle façon calmer son anxiété? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Annie Schwab, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, vous avez l'air en pleine forme Annie Schwab. Comme
ça va pas mal, ouais, ouais.
Ah bah voilà, ça va pas mal, c'est génial, tant mieux pour vous. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Maxi, Maxi qu'on aime beaucoup, partenaire de cette émission. Alors vous ne venez pas avec un numéro de Maxi, vous ne venez pas avec deux numéros de Maxi, vous venez avec trois numéros de Maxi. Qu'est-ce
eh ben c'est Maxi, ça. C'est parce qu'on fait Maxi Hebdo et puis on fait des hors-séries cuisine avec des recettes inratables et puis on fait Vive la pomme de terre. Enfin, on fait plein de choses. On fait des Maxi magazines pour se faire plaisir.
Pour se faire plaisir. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes intéressé à l'anxiété hein, dans ben votre oui. magazine.
C'est pour ça qu'on
Hebdo.
Fait de la cuisine. Hein. C'est que ça permet aussi de se désinquiéter, désangoisser.
Parce qu'il est des activités comme ça qui nous font du bien. Est-ce que l'anxiété, selon vous, se généralise dans notre société?
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on écoute les infos, comme juste avant l'émission, ouais. c'est pas fait non plus pour qu'on soit zen, zen, zen. Mais je pense qu'il y en a toujours eu. C'est ouais. quelque chose qui est, je dirais, qui est propre à l'humain. Ouais. Hein, à partir du moment où on pense, où on cogite. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins anxieux quand même.
Voilà, donc il y a des natures, mais on va en reparler avec notre invitée Anne-Victoire Rousselet qui est à nos côtés. Bonjour Anne-Victoire.
Bonjour Flavie.
Bienvenue, vous êtes psychologue et vous êtes psychothérapeute Anne-Victoire Rousselet. Alors, est-ce qu'effectivement on est dans une société aujourd'hui qui génère de l'anxiété et est-ce que finalement l'anxiété, ça fait partie de l'être humain?
Je pense en effet que l'anxiété fait partie de l'être humain, qu'il y en a beaucoup, mais que les objets de l'anxiété changent, évoluent en fonction des moments de l'histoire finalement. Donc aujourd'hui, l'anxiété c'est finalement l'anticipation négative de l'avenir.
Voilà, c'est quoi? Comment on peut la définir l'anxiété? En fait, c'est ce truc comme ça qui nous empêche d'avancer, qui fait qu'on est toujours un peu inquiet, qu'on se demande de quoi l'avenir sera fait.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une anticipation négative de l'avenir.
Ouais.
Alors que ce soit personnel, professionnel, social, même sociétal, c'est une anticipation négative de l'avenir. Donc, il y a des événements qui nous poussent à être anxieux naturellement et ça se justifie. Alors, il y a eu les événements de 2015 qui ont poussé les gens à être anxieux dans leurs déplacements, évidemment. Comme il y a des changements de vie, les études pour les jeunes qui peuvent être anxiogènes, le travail, l'avenir professionnel, l'avenir affectif, est-ce que c'est la bonne personne, etc. Donc, c'est l'anticipation négative de l'avenir. Alors, se poser des questions, c'est normal. Y répondre négativement, c'est là qu'on tombe dans quelque chose de douloureux, de pathologique qui peut entraîner troubles du sommeil, irritabilité, négativisme, hyperphagie, enfin bref.
Est-ce que vous avez le sentiment aussi, vous Annie Schwab, que l'anxiété c'est quelque chose de contagieux? C'est-à-dire que quand vous êtes au contact de personnes qui sont plutôt zen et qui voient plutôt l'avenir d'une façon positive, finalement on est dans un cercle vertueux, mais on est sensible à l'anxiété généralisée.
Bah, oui, ça, de toute façon il y a une dernière étude qui a prouvé que le bonheur et la joie de vivre étaient contagieuses, donc inversement, c'est aussi vrai pour l'anxiété. Maintenant, je suis tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a des gens qui sont anxieux de nature et qui n'ont même pas conscience de leur anxiété. C'est-à-dire que déjà, quand on prend conscience de son anxiété en se disant « Oui, c'est parce que j'ai peur du lendemain ou j'ai peur du surlendemain », parfois c'est un état latent qu'on n'arrive même pas à cerner et qui est super inconfortable.
Marie-Laure nous écrit « Je ne m'en rends pas tellement compte, ça fait partie de mon quotidien, l'anxiété, mais mon compagnon, visiblement, subit beaucoup plus cette anxiété. Ça peut me pourrir la vie
de m'inquiéter pour tout, mais ça m'aide finalement à gérer d'éventuels imprévus, à pallier et à bien réagir à toutes les situations qui pourraient survenir. Mais je reconnais que parfois c'est usant. On va parler de l'anxiété avec vous jusqu'à 16h sur RTL, en compagnie de Mickaël qui va témoigner en direct sur cette antenne dans un instant. Mickaël, vous ne bougez pas, nous non plus, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nos invités que sont Annie Schwab et Anne-Victoire Rousselet nous aident à vaincre notre anxiété. Juste avant de donner la parole à Mickaël qui va témoigner de la sienne, on va revenir sur le message que je vous ai lu il y a un instant, Anne-Victoire Rousselet, sur Marie-Laure qui nous explique que son anxiété lui permet de gérer d'éventuels imprévus, de pallier, de bien réagir à toutes les situations qui peuvent survenir. C'est quoi ça? C'est la bonne excuse de l'anxieux?
Exactement, c'est la bonne justification des anxieux qui n'aiment pas les surprises, ni les bonnes ni les mauvaises, et donc anticipent le pire en se disant comme ça je ne serai jamais surpris.
Très bien. Mais il y a la bonne et la mauvaise anxiété. On en parlait il y a un instant, Annie Schwab. La bonne anxiété, c'est celle qui nous permet aussi parfois d'appréhender des situations dangereuses.
Bien sûr.
Si on parle de nos ancêtres, l'anxiété avait une fonction quand
même. Bien sûr, le gros ours, le loup, voilà. Donc on a des raisons objectives d'être anxieux. Après, on peut aussi passer assez rapidement dans la situation de freeze où ça nous empêche, ça nous paralyse et ça nous empêche complètement d'avancer.
Anne-Victoire Rousselet, il y a l'anxiété qui permettait à nos ancêtres d'échapper à leurs prédateurs et qui leur permettait de partir en courant, et puis il y a celle qui paralyse.
Oui, en effet. Et alors, si on est tout à fait juste, c'est la peur, l'émotion de peur qui nous permettait de réagir. Oui. Et aujourd'hui, l'anxiété est plutôt quelque chose de négatif dans la mesure où c'est l'anticipation démesurée de ce qui va se passer. Aujourd'hui, il n'est pas raisonnable d'avoir peur réellement d'un entretien ou de passer un examen. À mesure où on y est préparé.
On va accueillir Mickaël sur cette antenne. Il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe chez lui. Bonjour Mickaël.
Bonjour Flavie.
Ça me fait plaisir de vous entendre. Merci d'être avec nous, Mickaël. Alors si on parle du petit Mickaël, il y a plus de 40 ans, vous avez 42 ans aujourd'hui. Vous avez toujours été anxieux, vous, hein?
Ah, toujours.
Ouais, ça se traduisait comment?
Bon, ben, rentrée scolaire, c'est toujours compliqué, avec les maux de ventre, maux de tête,
ouais.
Le gros stress.
Physiquement, vous ne vous sentiez pas bien. Vous aviez un vrai problème relationnel avec les autres?
Non, pas plus que ça, pourtant, mais c'était vraiment l'inconnu, la nouvelle année qui m'angoissait.
Alors, Mickaël, ce que je vous propose, on va vous reprendre en ligne dans un instant parce qu'on entend énormément de bruit autour de vous. Je sais que vous êtes dans un lieu public, donc Céline va vous reprendre et on va essayer de trouver un endroit où on va pouvoir poursuivre nos échanges. Je me tourne vers vous, Anne-Victoire Rousselet. Mickaël déjà nous explique, quand il était petit, il était déjà d'une nature anxieuse. Qu'est-ce qui fait que l'anxiété trouve... En quoi l'anxiété peut-elle trouver son nid dans l'enfance?
Il y a un terrain, déjà, il y a un terrain biologique.
C'est génétique parce qu'on a Norita qui nous écrit « Ma mère est anxieuse et elle me l'a malheureusement transmis ».
Bien sûr, alors il y a plusieurs choses dans ce que nous dit Norita, c'est qu'il y a à la fois cette dimension biologique, d'accord, comme on hérite aussi d'un terrain allergique, on peut hériter d'un terrain anxieux, mais il y a également cette question du modeling, on a déjà parlé dans les précédentes émissions, et de l'observation, c'est-à-dire que maman anxieuse a des comportements d'anxieuse que, enfant, j'apprends, j'observe, et je suis susceptible de reproduire puisque c'est mon modèle et que je tiens à lui ressembler.
Donc on peut se dire que Mickaël, déjà à la base, quand il nous parle de son enfance anxieuse et ses rentrées scolaires, et on peut envisager qu'il était dans un environnement déjà qui était anxieux. En fait, l'anxiété, c'est vrai, quand on regarde Annie Schwab, on voit des enfants à la rentrée scolaire qui sont hyper bien et d'autres qui sont paralysés par l'angoisse.
Et puis je pense que plus on est perfectionniste et plus on a une sorte de charge, que ça soit celle des parents, une attente, etc., plus ça crée l'anxiété. C'est-à-dire qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Et donc voilà, mais je pense effectivement que l'anxiété se transmet même de façon totalement subliminale, surtout de la mère à l'enfant. Il y a un tel contact que ça doit même passer dans le lait maternel, je pense.
Alors, Mickaël, vous êtes toujours là?
C'est bon, toujours là.
Voilà. Non, mais vous n'y êtes pour rien, mais on vous a demandé de vous éloigner un petit peu parce qu'on ne pouvait pas profiter complètement de votre témoignage. Donc, on est revenu, nous, sur l'enfance avec nos invités. Hein. Vous l'avez toujours été. Vous n'aviez pas de problème. Vous aviez des copains, mais vous étiez quand même un petit garçon anxieux. Vous êtes issu d'une famille d'anxieux?
En réfléchissant, je pense que ma mère et mon père étaient anxieux aussi.
D'accord, ok. Donc, c'est quelque chose dont vous avez hérité, quoi, hein, voilà, quelque oui. part. Ok. Aujourd'hui, cette anxiété, la vôtre, à l'âge adulte, elle se traduit comment, Michael ?
Palpitations, tremblements, les mains moites, difficulté à parler.
Ouais.
C'est ce qui m'arrive en ce moment avec vous. Là.
Mais oui. oui, mais en même temps, ça vous fait du bien. Moi, je trouve que c'est un premier pas, parce que c'est génial de prendre la parole comme ça et de pouvoir parler de ce que vous ressentez.
Ah, j'ai compris que c'était la meilleure des thérapies, c'était de me forcer à battre ce sein. Donc,
Ouais, je comprends. Toutes les situations nouvelles vous mettent dans une un climat d'anxiété ?
Ah oui.
D'accord. À partir de quand cette anxiété tombe-t-elle ? C'est quand vous êtes rassuré sur votre environnement, sur les gens qui vous entourent, vous comprenez qu'on ne vous veut pas de mal et que vous avez votre place ?
Quand tout est vraiment passé. Quasiment quand je rentre chez moi. Ou...
Ah, d'accord. Donc dès que vous rentrez finalement dans votre cocon...
Voilà, ça va mieux.
Tout va mieux, d'accord. Est-ce que vous avez essayé de trouver des solutions à cette anxiété, Michael ?
Bah, la psychologue de Patty, ça aurait voulu que je fasse une psychothérapie moi-même.
Oui.
Mais je suis pas encore prêt à passer le cap.
Alors, on va préciser que Baptiste est votre petit garçon qui a 5 ans et demi, qui est votre fils. On vous connaît depuis quelques années puisque vous nous suivez régulièrement sur RTL. Et donc, elle vous a invité à faire une thérapie que vous n'avez pas acceptée pour l'instant.
Pour l'instant, non, je me suis pas encore préparé à ça.
Bon, on va se retrouver dans un instant, Michael, vous voulez bien ? On va poursuivre nos échanges hein, sur l'antenne d'RTL. Tout va bien, on reprend notre souffle, on est entre potes, c'est un peu comme à la maison, vous savez, ici. A tout de suite, Michael.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Quentin nous écrit « Depuis un an, je ne fais que paniquer, ça m'empêche même de dormir, c'est vraiment désagréable. J'aimerais bien savoir comment faire pour ne pas que cela continue comme ça. » Aujourd'hui, on parle de l'anxiété avec nos invités que sont Annie Schwab et Anne-Victoire Rousselet. Et Michael, vous êtes toujours en ligne avec nous. Michael,
oui.
Est-ce qu'on peut revenir sur notre rencontre, vous et moi ? On s'est rencontrés il y a quelques années sur l'antenne d'RTL. Est-ce que vous m'autorisez un petit peu à revenir là-dessus ?
Pas de souci.
Bon. Michael, un jour, vous nous avez appelé dans cette émission et depuis, on a un lien un petit peu particulier parce que vous nous aviez appelé pour nous parler de votre petit garçon Baptiste qui, à l'époque, avait quel âge ?
Il avait 4 mois quand je vous ai appelé.
D'accord. Donc, il avait 4 mois et vous nous aviez appelé parce que la maman de Baptiste avait dramatiquement disparu en s'occupant de votre petit garçon suite à une crise d'épilepsie. Depuis, on est en lien régulièrement. Vous venez nous voir aussi. Et puis, nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et souvent, on vous retrouve sur le terrain de l'anxiété. Est-ce que vous avez le sentiment, Michael, que depuis le décès de la maman de Baptiste et depuis que vous êtes tous les deux en train de vous battre pour vivre, pour être heureux, pour poursuivre votre existence. Est-ce que vous avez le sentiment que votre anxiété s'est démultipliée ?
Oui, parce que non, c'est pour moi et pour Baptiste.
C'est-à-dire que vous êtes inquiet pour Baptiste ?
Ah bah toujours, oui.
Voilà, donc vous avez une anxiété qui aujourd'hui s'est complètement installée et fait partie de votre quotidien.
Oui.
Quand la psy de Baptiste vous dit « Venez me voir, on va faire une thérapie ensemble », pourquoi est-ce que vous sautez pas le pas ? Pourquoi justement est-ce que vous y allez difficilement ?
Je l'ai fait 2-3 fois, c'est pareil quand même, mais elle préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais.
D'accord, ok, donc ça veut dire que vous aimeriez être pris en charge par une personne qui serait extérieure à Baptiste ?
Oui.
D'accord, ok. Mais ça, c'est bien, ça, parce que vous savez qu'il y a des réponses à l'anxiété. Il y en a vraiment, hein. Parfois, on a l'impression qu'on est dévoré par l'anxiété. Et alors, je vous parle d'expérience. Et en même temps, on arrive à trouver un jour le bon thérapeute, les bonnes techniques qui nous permettent finalement de beaucoup mieux vivre avec cet état qui ne disparaît peut-être pas complètement jamais, hein, mais que l'on apprend à mieux gérer. Je vais me tourner vers vous, Anne-Victoire aussi, parce que moi, je voudrais qu'on donne des clés à Michael et déjà lui expliquer que c'est possible. Michael, est-ce que vous imaginez une vie sans anxiété ?
Ça fait 40 ans que j'ai avec ça, donc je crois pas.
Alors, vous savez que ça peut s'améliorer. Je vous présente Anne-Victoire Rousselet. Anne-Victoire, c'est vrai ce que je dis. Parfois, on a l'impression d'être empêtré dans un climat d'anxiété, d'angoisse absolument épouvantable. Et pourtant, on peut emprunter un chemin qui s'apparente à une forme de guérison.
Il y a un certain nombre de stratégies. Certaines sont décrites dans le magazine, comme les stratégies comportementales, de détente, de respiration, de sport, les stratégies dites cognitives. On apprend à changer sa pensée, avoir une pensée qui sera plus rationnelle, rationnel, plus réaliste, plus ancré dans de l'objectivité. Et surtout, on vous accompagne dans ce parcours. Et les patients anxieux, donc au début, me disent ce que vous nous dites là, c'est-à-dire j'imagine pas, j'ai toujours vécu avec. Et puis ensuite, au bout de quelques séances, nous disent mais c'est impressionnant, j'aurais jamais imaginé vivre sans, et c'est incroyable, c'est comme une seconde vie. Et l'autre point qui les étonne, c'est de s'être emprisonné finalement dans ce trouble anxieux sans s'en être vraiment rendu compte. Voilà. Mmh. Et donc il y a un certain nombre de clés qui fonctionnent très bien, et j'ai coutume de dire que c'est le minimum syndical pour consulter l'anxiété, si vous voulez. Et c'est quelque chose qu'on connaît bien et qu'on soigne maintenant très bien, parfois même sans médicaments.
Michael, est-ce que... Bon, d'abord, on restera en contact après l'émission parce qu'on va vous donner quelques clés. Hein, si vous en avez besoin, nous, ça nous fera plaisir de pouvoir vous aider. Est-ce que vous avez conscience aussi que, justement, il est important pour vous de prendre en charge votre anxiété pour finalement mieux vivre avec Baptiste et ne pas lui transmettre ce climat-là ?
Ça, je l'ai compris, oui.
Parce que, non, mais si je vous dis ça, c'est que parfois, en plus, quand on est en galère dans la vie, quand on a plein de trucs à gérer, on se dit que soi-même, on n'est pas prioritaire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
On se dit, je vais faire passer mes enfants, mes différents trucs qu'il faut que je gère. Et moi, de toute façon, je suis très secondaire. Alors qu'en réalité, vous êtes très certainement dans une position de priorité, Michael. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous voulez rester en contact avec nous là, et puis on vous donnera quelques numéros et quelques adresses pour justement prendre en charge cette anxiété, hein ? Ça vous ferait du bien ? Allô ?
Oui, je vous écoute.
Ouais, ça vous fera du bien, Michael ?
Tout à fait.
On est d'accord ? On reste en contact ? Bon, Baptiste, vous lui ferez des gros bisous de notre part.
D'accord.
Ah, et puis sachez qu'on pense à vous et qu'on vous soutient. On vous soutient de tout cœur, d'accord ? Et puis on reste en contact pour justement vous donner des conseils et essayer de vous éclairer. Ok, Michael ?
Très bien, merci beaucoup.
Je peux vous embrasser, Michael ?
Pas de souci.
Allez, je vous embrasse bien fort et puis vous embrasser Baptiste aussi. Bah oui, profitez-en. À bientôt, Michael. On se tient au courant. Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, comme nous, vous êtes forcément émus par le témoignage de Michael que vous venez d'entendre sur l'antenne d'RTL. Un premier pas hein, quand même que fait Michael, Anne-Victoire Rousselet et Annie Schwab. Premier pas en parlant déjà de son anxiété. Est-ce que ça n'est pas, selon vous, Annie Schwab, le début justement d'une forme de...
Oui, je le souhaite. En tout cas, moi, Michael m'a beaucoup touchée parce qu'effectivement, on ressent, je pense que tous les auditeurs et auditrices l'ont ressenti, une vraie anxiété, mais... qui est aussi assez familière. Tout le monde a connu un moment comme ça dans sa vie et on sait qu'on peut en sortir. Alors effectivement, c'est un peu lourd au niveau de l'histoire, mais voilà, ce serait top si Michael franchissait ce pas qui lui permettrait de se prouver qu'on peut vivre sans anxiété.
Voilà, et d'autant plus qu'Anne-Victoire Rousselet est là pour nous expliquer que cette anxiété qui se généralise parfois dans notre existence peut devenir un mauvais souvenir. Yvan nous explique qu'il est un anxieux né, sans doute un cadeau de ma mère, elle-même anxieuse à l'extrême. Je m'attends toujours au pire pour tout. On a un tweet également de la tribu. Ma belle-sœur est très anxieuse. Les relations avec notre famille, du coup, sont difficiles. Nous devons mesurer chaque parole car tout est tourné négativement, exagérément, voire agressivement. La communication devient donc inexistante ou superficielle. Ça, ce sont les conséquences justement d'une anxiété généralisée. C'est un problème relationnel avec les autres, avec le monde extérieur. Michael nous explique. J'angoisse toute la journée jusqu'au moment où je rentre chez moi.
Tout à fait, ça peut, c'est épuisant pour l'entourage. Et parfois, c'est l'entourage qui précipite les premières consultations en disant « j'en peux plus, des crises anxieuses de t'accompagner à droite, à gauche, de tes ruminations, de ta crainte d'être en retard, etc. » Et qui pousse à consulter. Ça peut en effet être quelque chose d'envahissant au point que l'entourage gère, un peu comme, vous savez, dans le TOC, l'entourage aide à gérer le TOC. C'est entre guillemets une erreur que l'on fait parce que c'est donner trop de place au trouble, mais spontanément, comme on voit l'autre dans la souffrance, on cherche à contenir son angoisse. Hein.
On ne hiérarchise plus non plus les sources d'anxiété. On flippe de la même façon pour une chose anodine et une chose grave.
On peut. Autant pour son trajet quotidien que pour aller prendre l'avion pour un voyage lointain. Oui. Exactement. Tout devient source d'anxiété.
Annie Choix, vous avez rencontré, vous, des anxieux dans votre dossier, dans Maxime?
Oui, pas mal d'anxieuses. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu des profils différents. Il y a la perfectionniste qui se donne à fond dans son travail et donc, forcément, comme on le disait tout à l'heure, elle est très anxieuse parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle fera jamais, oui, jamais assez. Il y a une femme, Lucie, qui a 47 ans, qui... elle voyait tout en noir et qui obéissait comme à des croyances totalement irrationnelles. Donc c'est ce qu'on se disait. En fait, elle s'inventait presque une vie en pire. Donc, mais elle y croyait, donc forcément, comment voir la vie en rose dans ces cas-là. Et puis, on a aussi Marine, qui, elle, est une émotive, une hypersensible. Voilà, mais en même temps, je vais juste rebondir sur Michael, qui nous racontait que quand il rentrait chez lui, ça s'arrêtait. Et c'est déjà vachement bien. Parce qu'il y a des anxieux, ça ne s'arrête jamais. Ça continue comme une cocotte minute à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Donc je dirais que c'est quelque chose de vachement positif pour Michael.
Est-ce que ça peut, cette anxiété généralisée peut devenir une sorte d'anxiété sociale, à l'instar de Michael? Voilà, ça fait partie des excès d'anxiété.
Il y a plusieurs types d'anxiété et parfois elles se déplacent. Donc parfois c'est des ruminations sur l'avenir un peu général. Parfois c'est vraiment que sur les relations sociales, la question de la performance. Elle se déplace, cette anxiété, et elle peut prendre différents visages en fonction des différentes périodes de notre vie. Vous voyez, un anxieux qui ne se soigne pas et qui est dans un premier temps mal à l'aise sur les questions professionnelles ou scolaires peut, une fois qu'il est rentré dans sa carrière et que ça se passe bien, davantage s'interroger sur les aspects relationnels, affectifs ou... plus tard sur la mort, c'est quand même au centre souvent des questionnements des anxieux, c'est la question de la
finitude.
Mort. Et, oui, exactement.
Voilà,
et de comment, de la souffrance, oui.
D'accord. Donc c'est presque des inquiétudes philosophiques, quoi. Une anxiété philosophique. C'est-à-dire que ça trouve son origine dans des faits concrets de notre existence, mais qui nous emmène très loin dans des réflexions qui parfois vont au-delà du concret et deviennent presque de la philo, quoi.
C'est ça. L'esprit finalement va se focaliser sur des éléments concrets, pratiques et pragmatiques du quotidien, mais finalement. En effet, quand on se pose et qu'on détricote, c'est comme ça que je le dis, les ruminations anxieuses, on tombe finalement sur des questionnements beaucoup plus métaphysiques et existentiels. Ouais.
Je trouve que le mot détricoter est hyper important parce que je pense qu'il y a une anxiété supplémentaire. Il y a la deuxième couche qui arrive quand on est anxieux et qu'on ne sait pas pourquoi. Donc presque on culpabilise de cette anxiété.
Oui, c'est quand ça devient généralisé.
Et ça, voilà, c'est la deuxième couche. Donc il faut vraiment essayer de comprendre. Parfois, on n'y arrive pas tout seul, quoi.
Voilà, une anxiété qui amène à des crises d'angoisse. On va en parler dans un instant avec Armelle. Armelle va nous expliquer justement comment elle a réussi à mettre un peu chaos son anxiété avec des trucs à elle. Et puis, on va aussi livrer des conseils et revenir sur tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux en nous racontant vos solutions justement contre l'anxiété. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Dans un instant, nous allons donner la parole à Armelle. Mais auparavant, puisqu'on parle de l'anxiété, Anne-Victoire Rousselet, on est parfois anxieux dans la vie, mais à partir de quand doit-on s'alerter en se disant qu'effectivement, il faut réagir et peut-être se tourner vers des thérapies dont on va parler dans un instant? Quels sont les signaux qui doivent alerter?
Alors, il existe plusieurs signaux. Il y a les signaux cognitifs, donc ma pensée que je contrôle moins, mes ruminations, ma façon de penser en boucle sur les mêmes problématiques. Mais il y a également les signaux du corps, comme les troubles du sommeil, les réveils nocturnes, les insomnies initiales, c'est-à-dire une difficulté à m'endormir. Il y a également les troubles de l'alimentation, donc j'augmente mes quantités ou je diminue mes quantités, j'ai le ventre noué, etc. Mais aussi les consommations en tout genre, toxiques, tabac, alcool, j'augmente une augmentation en général, tous les autres toxiques que je ne citerai pas, mais qui impactent...
Quoi, les drogues, le cannabis, tous ces... Voilà,
tout autre toxique, mais également nourriture grasse, sucrée, c'est plutôt vers ça qu'on va quand on est anxieux.
D'accord.
Donc ça, ce sont des signaux qui nous montrent que notre corps réagit à notre environnement.
Alors, des signaux, elle en avait, c'est Armelle qui est en ligne avec nous, elle avait des pensées dévalorisantes, elle avait des nausées, des problèmes intestinaux, ça en fait des choses quand même, Armelle, pour une jeune femme comme vous.
Ravie de vous entendre.
Nous aussi. Bah, ça a l'air d'aller mieux, en tout cas.
Ah, eh bien, effectivement, oui, j'ai un peu appris à manager tout ça.
Alors, manager tout ça, parce qu'effectivement, vous vous êtes retrouvé parfois, vous, dans des crises de panique, dans une sorte d'anxiété qui s'était généralisée. Vous étiez peu à peu en train de vous renfermer, hein, finalement, sur vous-même.
Oui, en fait, comme l'expliquait votre précédent interlocuteur,
ouais, Michael.
Bon, effectivement, une famille un petit peu qui m'a transmise cette timidité, cette anxiété. Et puis du coup, bah, j'ai appris à être un ermite.
Oui.
Voilà, ça m'avait fait beaucoup sourire là, par rapport à votre émission d'hier. Moi, c'est mon prénom, c'est un ermite Armel en Bretagne.
D'accord, en okay. Donc ça vous allait très bien.
C'est dingue, c'est le prénom qui m'allait.
Donc vous avez joué les ermites, mais un jour vous vous êtes dit quand même que c'était pas possible de continuer à vivre comme ça.
Oui, disons que la vie fait qu'on est obligé de faire face à certains éléments.
Ouais.
Et puis, eh ben, le bac, les examens de musique, hein, c'était mon cas. Et puis après, en devenant professionnelle, faire des cours. Eh bien, il a fallu que je me dépasse. Puis finalement, je crois que j'ai pris le goût au dépassement.
Ouais.
Voilà.
Alors tellement que vous êtes devenue psychologue du sport, donc être psy déjà c'est une forme de dépassement, du sport c'en est une autre. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris lors de vos études qui vous a permis justement d'apaiser cette anxiété qui s'était généralisée chez vous?
Bah, d'abord que cette anxiété finalement elle est naturelle. On est beaucoup dans la culpabilité quand on est anxieux, on se dit qu'on est différent des autres, qu'on ne sait pas gérer, on est vraiment dévalorisant vers nous-mêmes.
Ouais.
Voilà. Et donc, non, ça m'a appris que c'était quelque chose qui faisait partie de nous et de moi.
Mmh.
Et puis, j'ai appris aussi des petits mécanismes qu'on peut mettre en place, que j'enseigne à mes petits sportifs, si je peux me permettre. Et ce qu'on appelle le coping. Et puis, sans le vouloir inconsciemment, au fur et à mesure, je les ai mis en place. Hein. Je ne connaissais pas cette notion-là. Voilà, et j'ai réussi à faire de la respiration, ce qui est basique hein, à la base, de la relaxation quand j'avais des maux de tête. Mmh. J'ai appris aussi à me valoriser. Mmh. Et puis maintenant, bah, je suis même un peu trop positive. En général, quand je parle, les gens me disent « Non, vous êtes un bisounours ». Non, ça existe.
Non, mais c'est super parce que pour des gens comme Mickaël, que vous avez peut-être entendu tout à l'heure témoigner en début d'émission, c'est vrai que de se dire que c'est possible et que ça peut être même l'inverse. et que surtout, il y a des trucs qui donnent des réponses rapides, c'est génial. C'est quoi le coping, Armel? Est-ce que vous pouvez livrer deux conseils comme ça à nos auditeurs?
Ah, alors le coping, c'est simplement votre invité le connaît,
oui.
Sans doute c'est le faire face.
Oui.
Alors c'est simplement s'engager dans des petits mécanismes pour gérer l'événement qui se produit. Alors on sait qu'il y a plusieurs mécanismes efficaces, il y en a qui sont moins efficaces, dont demander de l'aide à quelqu'un. Mmh. Que vous avez engagé Mickaël à faire.
Ouais.
Il faut aussi nécessairement aussi dédramatiser. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien la situation qu'on vit, elle est jamais grave. Le vrai grave dans la vie, c'est la maladie, c'est le décès. Et alors c'est extrême, hein, mais en fait quand on regarde, rater un rendez-vous, et bien aussi des fois c'est pas si dramatique que ça, je pense.
Mmh. Hein. Mmh.
Donc ça prend à relativiser. Et puis c'est aussi un petit peu se donner des petits objectifs, en fait, pas se donner des gros objectifs, donner des petits objectifs atteignables qui vont nous valoriser. Voilà ce que je pourrais dire.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Armel. Je vous embrasse et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis vous avez raison, vous avez remis le monde à l'endroit, c'est-à-dire à un moment donné, il faut connaître les priorités, les choses importantes et les choses moins graves. Mais c'est vrai que parfois, on est aveuglé par son anxiété. On va poursuivre nos échanges dans un instant. Armel, on vous embrasse.
Au revoir, Flavie.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous écoutez RTL. On est fait pour s'entendre.
pensez pour Laurent qui nous écoute et qui vient de nous laisser un message sur Facebook. Vos sujets sont toujours tellement intéressants, c'est curieux. La plupart me concernent et particulièrement celui du jour, l'anxiété. Quelle galère au quotidien. Je suis tellement anxieux que je sors très peu. Je ne travaille pas de peur de rencontrer les autres. C'est un véritable handicap. Merci pour votre excellente émission. On vous embrasse, Laurent. On va vous donner des trucs dans un instant. Ok, San qui tweet. Je suis également très anxieuse et cela touche presque tous les aspects de ma vie. Un message sans réponse, on craint tout de suite le pire. Un bruit dans la nuit et c'est la panique de se faire cambrioler ou agresser. Le pire, c'est que rien n'est perceptible de l'extérieur. C'est une forme de handicap invisible, hein, l'anxiété. On essaye en plus de la planquer le plus possible parce qu'on n'a pas forcément envie de la partager avec les autres, car c'est un premier signal aussi de grande vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'on est dans cet état d'anxiété? Vers qui se tourner? Quelles sont les techniques auxquelles on peut faire appel, Anne-Victoire Rousselet?
Alors, la première des choses, ça va être de retrouver un contrôle sur ces éléments physiologiques, physiques, cette tension et ces ruminations. Donc, première des choses, ça va être quelque chose, une stratégie physique. Par exemple, le sport, par exemple, la respiration, la relaxation. Ces éléments-là, pour retrouver le contrôle de sa réponse physique. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a retrouvé le contrôle de cette réponse physique, on va pouvoir travailler sur nos pensées, nos ruminations anxieuses, nos pensées négatives. Ce qui va être intéressant, c'est dans un premier temps de les relever. C'est-à-dire de relever, dans une situation donnée, par exemple, je suis dans les transports, je ressens une émotion qui est de la peur, de l'anxiété, que j'évalue à 8, 9 sur 10. Je me dis, oh là là, si je me fais agresser, s'il m'arrive quelque chose, si le train s'arrête, je pourrais mourir ici. Et mon comportement, ça va être, par exemple, je déclenche une crise anxieuse. Donc, la première des choses, ça va être de relever ça et se rendre compte dans quel contexte ça intervient, qu'est-ce qui le précipite, qu'est-ce qui le limite aussi, quels sont les facteurs qui me protègent. Quand je suis avec mon conjoint,
j'ai moins peur.
J'ai beaucoup moins de crises anxieuses, etc. Donc, c'est d'observer d'abord son problème.
Donc, en fait, c'est faire le bilan. Hein,
ouais.
D'accord.
Faire le bilan, retrouver une stratégie physique de contrôle physiologique de sa réponse biologique et comportementale. Et ensuite, ça va être de travailler avec un spécialiste, à mon sens, qui fera par exemple de la thérapie comportementale et cognitive, parce que c'est aussi ce que je fais et qu'on sait que ça fonctionne très bien. Travailler sur ses pensées pour avoir une pensée qui va être plus réaliste, plus objective. Dans ce contexte donné, dans cette situation où j'étais dans les transports, qu'est-ce que j'aurais pu penser d'autre dans cette situation, de plus objectif, de plus réaliste? J'aurais pu me dire, voilà, le train s'arrête, on est plusieurs, s'il m'arrive quelque chose, d'autres personnes pourront être témoins et pourront peut-être m'aider. Avec les statistiques, il y a sans doute un médecin dans ces transports en commun, etc. Donc ça va être d'avoir accès à une pensée plus objective, plus réaliste, et éventuellement de se dire, quand j'allais bien, quand j'étais détendu, qu'est-ce que j'aurais pu penser de cette situation-là? Voilà quelques petites clés qui peuvent nous permettre aussi de réévaluer autrement la situation.
Ces clés, on les travaille en cabinet, on les travaille en groupe, comment ça se passe?
Les deux sont possibles, c'est plutôt en individuel, puisque le trouble anxieux est très personnel finalement, on n'a pas tous les mêmes ruminations, mais c'est plutôt en individuel, en cabinet.
Les effets sont rapides?
Plutôt oui, puisque pour un trouble anxieux simple, on me dirait qu'est-ce qu'un trouble anxieux simple? Les anxieux sont en train de sauter sur leur chaise, mais un trouble anxieux simple, c'est 6 à 8 mois de thérapie, donc c'est à peu près une séance tous les 3 semaines. Ça va assez vite, oui.
Et on applique en plus ces techniques, hein. Il faut bien le préciser, hein. C'est-à-dire que vous avez un premier rendez-vous, vous repartez avec quelques éléments dans votre boîte à outils, et puis vous les appliquez au quotidien, et vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus outillé, hein, pour
Exactement.
Pouvoir faire face à ces situations qui nous échappent. En fait, c'est reprendre le contrôle, quoi.
Reprendre le contrôle, pour les anxieux, c'est intéressant, et avoir des stratégies qui nous permettent, Armel nous parlait de coping, c'est pour faire face, voilà, c'est des stratégies pour gérer l'anxiété, le terme est tout à fait exact, on ne s'en débarrasse pas complètement,
non.
Mais on apprend à la gérer au point qu'on n'a plus du tout d'attaque de panique, même au bout de ce qui surprend les patients, au bout de 15 jours,
c'est vrai,
c'est fini, il n'y a plus d'attaque de panique.
Et ça pèse.
Annie Schwab. Moi j'aime bien, Flavie, votre terme, la boîte à outils. Parce que nous, les nanas notamment, on a toujours 2-3 trous dans notre sac, n'est-ce pas ? Où on a du rescue, où on a des petites granules homéopathiques, où on a des petites fioles de perlimpinpin, etc., etc. Et voilà.
Vous êtes pote avec notre président, avec la poudre de perlimpinpin.
Non, alors, pas perlimpinpin, autre chose. Mais, par exemple, bon, bien sûr, pour sauter le pas, pour aller vers une psychothérapie qui est assez rapide, hein, d'après ce que vous dites, il faut aussi retrouver un certain courage et une certaine envie, et que ces petites choses, qui sont des remèdes naturels, peuvent aussi aider dans certains moments. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu, enfin moi, ça m'arrive, hein, d'avoir comme ça un petit coup d'anxiété. Hop, je sors ma petite fiole, je m'en mets 3 gouttes sous la langue. Et juste cet acte symbolique, finalement, est une sorte de petite canne et de petite. Donc voilà, donc pareil, on mettra sur le site toutes les plantes, tout ce qui peut aider de façon très douce, qui ne soigne pas forcément, mais qui aide peut-être à franchir le pas pour vraiment régler le problème définitivement.
Voilà, et que l'on retrouve également dans votre magazine, on va en parler dans un instant. On peut dire aussi à Anne-Victoire Ousselet, ça je pense que c'est important étant passé par là, c'est que lorsque l'on est rongé par l'anxiété, le fait de savoir que c'est possible, c'est déjà quelque chose d'énorme. Le fait de tenir ce discours en disant, voilà, au moment où vous avez l'impression d'être empêtré, enfermé finalement dans cet état, sachez que l'inverse est possible. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, donne du courage pour pouvoir affronter ces situations.
Exactement.
Et qui ne sont pas douloureuses parce qu'on est très vite dans la solution, pardon.
En effet, on est très vite dans la solution. Et le plus douloureux, finalement, c'est
de ne rien faire.
Oui.
Et de vous appeler, mais c'est de ne rien faire.
C'est d'accepter, voilà. Accepter.
On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Vaincre son anxiété. Voilà une émission qui, à mon avis, aura fait du bien à tout le monde. Et je voudrais d'ailleurs remercier ceux qui nous ont envoyé des messages pour Mickaël, parce que c'est super. Voilà, cette émission, elle est belle parce que c'est du partage. Et Mickaël, qui a témoigné en début d'émission, est soutenu par vous tous. On lui fera passer vos messages. Merci à tous, en tout cas, pour votre solidarité. Merci Annie Schwab. Je rappelle, le magazine Maxi, actuellement en kiosque, qui traite donc de l'anxiété et qui, en plus, nous donne des trucs et astuces. À bientôt Annie, je vous embrasse.
À très bientôt, moi aussi. Flavie.
Salut Anne-Victoire Ousselet. Merci pour tous nos auditeurs. Donc, grâce à vous, on sait qu'on peut vaincre l'anxiété rapidement et avec des thérapies qui sont simples. Et je rappelle votre ouvrage « Mieux vivre avec la schizophrénie chez Duno ». Pas grand rapport avec le sujet du jour. En revanche, dans cet ouvrage, il y a des exercices de coping dont on parlait justement et qui permettent d'apaiser l'anxiété. Voilà.
Exactement. Merci
beaucoup Anne-Victoire Ousselet. Demain, on va fêter le 14 février. Puis c'est quoi le 14 février, à part la rencontre choc PSG Real? Eh bien, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Que pensez-vous de cette fête? Est-elle devenue impopulaire? Ça semble être le cas. On en parlera avec vous demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, ils ne connaissent pas l'anxiété. Grâce au rire, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.